Le journal Adia Tchipoukou. À la une de cette édition, 3 soldats tués, c'est le bilan d'une fusillade cette nuit au nord Kivu entre des militaires de la 8e région militaire. L'incompréhension serait à la base de ces affrontements. Le calendrier électoral est désormais connu. Le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante l'a présenté hier au Parlement. Gros plan sur ce calendrier dans cette édition. Situation déplorable à l'hôpital général de Walungu dans le sud Kivu. Les interventions chirurgicales se font avec des lampes torches, faute d'électricité. Les médecins lancent un SOS. Bonjour à tous et merci de nous joindre. 3 morts, c'est le bilan d'une fusillade cette nuit entre soldats de la 8e région militaire à Goma dans la province du Nord Kivu. Cet échange des tirs a opposé d'un côté des militaires de l'état-major de la 8e région militaire soutenus par ceux du bureau de renseignement militaire à la garde du gouverneur de la province du Nord Kivu, Serufuli. Tout est parti d'une incompréhension. Plus de détails de Goma avec Gisèle Cage.
Cette fusillade a eu lieu cette nuit aux environs des minuit. Selon les responsables de la 8e région militaire, 2 soldats du bureau des renseignements militaires ont été empêchés d'accéder à leur poste par des éléments de la garde du gouverneur Serufuli en faction devant les installations de la radio privée La Colombe. Selon toujours la même source, des discussions s'en est suivies. Les 2 soldats du bureau des renseignements ont alors préféré rebourser chemin et demander à un officier de garde à quelques 100 mètres du lieu de la dispute d'envoyer un de ses hommes pour s'interposer. Au lieu que les choses s'arrangent, il s'en est suivi une certaine confusion et les différents militaires ont commencé à s'étirer dessus. Bilan, 3 soldats morts. Les victimes, un garde du gouverneur Serufuli, un soldat du bureau de renseignement militaire et les sergents de l'état-major de la 8e région militaire. Pour l'heure, une enquête est en cours à l'auditorat militaire et devra déterminer notamment pourquoi les gardes du gouverneur Serufuli n'ont pas obtempéré aux ordres reçus de la 8e région militaire. Gisèle Cache Goma, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Kabalo au nord Katanga, le chef Mai Mai Constantin souffle le chaud et le froid. D'une part, le maître de Kakuyu autorise ses combattants à se faire brasser. De l'autre, il exige que l'administration le porte à la tête du groupement Paillé à Kakuyu avant de déposer ses armes. Pour l'administration, Constantin devra se soumettre à la loi coutumière qui veut que le candidat à la chefferie sollicite le suffrage des notables. Le point avec Expedit Mwamba Mubi.
Le commandant Mai Mai Constantin a quitté son fief de Kakuyu, 90 km de Kabalo, pour Nguenagar depuis une semaine. Nguenagar est une localité située le long du tronçon ferroviaire Lubumbashi-Kabalo. D'après le capitaine Amissi, officier de liaison des Mai Mai du Nord Katanga, 285 combattants aux ordres de Constantin sont déjà rassemblés en Nguena en attente du train qui doit les amener au brassage à Kamina. Un autre groupe de 180 Mai Mai serait aussi sur le point de rallier Nguena. Le commissaire de district de Tanganyika assistant et l'administrateur de territoire assistant de Kabalo, tous les deux en charge de l'administration, ont rencontré Constantin en Nguena le 14 février dernier. Ce qui inquiète les humanitaires et même ses autorités, c'est plutôt l'attitude même de ce chef Mai Mai. Constantin exigerait à présent d'être placé à la tête du groupement Paillé à Kakuyu, là même où il a longtemps fait régner la terreur. C'est du moins ce que rapporte l'administrateur de territoire assistant de Kabalo, Goï Kayembe, et joint au téléphone.
Il préfère être candidat au chef de groupement Paillé. Il y a les procédures que nous allons suivre. Si réellement la population ou les notables élisent pour lui, il va passer chef de groupement, mais ce n'est pas d'office que nous devons directement les nommer.
Constantin opérait dans la région de Kakuyu, à 90 km de Kabalo. Ses exactions sont à la base du déplacement de plusieurs milliers de personnes à la fin de l'année dernière. Expedi Mwamba Mubi, Kalemi, Radio Kapi.
Katanga encore, situation humanitaire et sécuritaire préoccupante dans le territoire de Malembankulu, à 600 km au nord de Lubumbashi. C'est le constat d'une délégation conjointe MONUC, agence humanitaire et le consulat de la Belgique qui s'est rendue sur place hier. Cette délégation conduite par Madame Magda Gonzalez, chef de bureau de la MONUC Lubumbashi, a pu se rendre compte de nombreux cas de violation des droits de l'homme commis par les services de sécurité et principalement par l'Agence nationale de renseignement. Paul Kaboba a accompagné cette délégation dans cette localité du Nord Katanga.
C'est d'abord Gédéon et ses Mai Mai qui attaquent ce territoire en septembre 2005. En novembre 2005, les opérations des FRDC contre ce chef de guerre occasionnent des dommages collatéraux très importants contre les villageois. Les attaques de Gédéon et les opérations des FRDC ont engendré un important mouvement de population. Certaines ONG locales parlent de près de 16 000 déplacés, une autre ONG parle de 22 000, voire plus. Les ONG internationales sur place n'avancent pas de chiffres, mais affirment que la situation humanitaire est très préoccupante et nécessite une assistance en vivres, en non-vivres et en médicaments de toute urgence. La délégation a demandé aux ONG locales et internationales de s'entendre sur des chiffres précis pour leur permettre d'agir en tout état de cause. La société civile et d'autres organisations ont profité de la présence de cette délégation pour dénoncer les violations massives des droits de l'homme commises par les FRDC en dehors de Malembankoulou Centre, par la police et l'ANR à Malembankoulou et ses environs. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Et puis une autre situation préoccupante, c'est celle des femmes détenues de la prison de Tshikapa au Kasaï occidental. Selon la société civile de Tshikapa, les responsables de la police abusent de ces femmes comme ils le veulent. La société civile ajoute aussi que la police locale excelle en arrestations arbitraires et nocturnes de la population. Le témoignage de la société civile de Kamabandji est rendu par Ali Nour Loufou, l'un des responsables. Il est joint par André Kambala Moujanaï.
Les autorités de la police en place commettent beaucoup d'abus. Ils abusent vraiment des femmes de prison. Quand on incarcère une femme ici, elle devient automatiquement la femme des policiers ou bien du commandant en place. Quand j'essaie un peu de l'approcher sur ce problème, je dis tout simplement qu'une femme, quand elle est déjà arrêtée, normalement et d'office, elle devient automatiquement la femme des policiers. Vous n'avez plus rien à dire. Il y a beaucoup d'arrestations arbitraires qui se font ici à Kamabandji. On arrive quand même à 24h et 2h du matin sans mandat, seulement sur parole, seulement sur autorisation orale du commandant en place.
Parlons toujours de la police. À Kitambala, une contrée située à environ 320 km de Bounia, des agents du service de transport et communication sont accusés de rançonner la population à chaque passage de la barrière érigée à la sortie de cette localité. Ceux qui ne s'acquittent pas de cette obligation sont passés à tabac. Chris Moukand pour les détails.
Des voyageurs en provenance des Faradje en Haute-Ouélé rapportent que c'est la confusion qui règne à Kitambala. Compte tenu de sa position géographique, la localité de Kitambala permet le contrôle des mouvements des populations qui vont et viennent des Durba, Watsa, Dungu, Isiro dans le district des Haute-Ouélé. De ce fait, les services des douanes qui doivent en principe se situer à Aba, à la frontière avec le Soudan, ont été ramenés à environ 60 km à l'intérieur du territoire d'Arou. Témoignage d'un voyageur.
Au niveau de Kitambala, il y a une barrière qui est érigée par les services des transports. La population qui vient au marché d'Arouara, tous les achats, bon, entre autres les vélos, les vivres, quand ils arrivent là-bas, les documents délivrés par la douane du territoire d'Arou sont refusés là-bas. Il y a eu deux Soudanais qui étaient venus acheter les motos à Arouara, qui ont été fouettés par les services de la sécurité sur place là-bas.
Face aux plaintes parvenues aux autorités politico-administratives, le commissaire assistant du district de Lituri en charge de la politique de l'administration a effectué récemment une mission à Arou. Il affirme avoir donné des instructions formelles pour que les tracasseries cessent et que l'OFIDA remette de l'ordre dans ses services. Bounia, Chris Mokand, Radio Okapi.
Nous vous le disions en titre, le calendrier électoral est désormais connu. Le vice-président de la Commission électorale indépendante l'a publié hier au Parlement après l'adoption du projet de loi électorale. Mais quelles sont les grandes lignes de ce calendrier? La réponse avec René Capita.
Tel que présenté par le vice-président de la Commission électorale indépendante, ce calendrier prévisionnel comprend deux phases. La première concernant les élections présidentielles et législatives prendront 116 jours répartis de la manière suivante. 37 jours pour le dépôt et l'examen des candidatures, la publication des listes provisoires des candidats par la CEI, la présentation et l'examen des recours au niveau de la Cour suprême de justice et enfin la publication par cet organe judiciaire des listes définitives des candidats présidents de la République et députés. 6 semaines, soit 42 jours pour la production et la livraison des bulletins de vote. Ces bulletins devront être différents pour chaque circonscription électorale, soit un total des 169 lots de bulletins différents. Et enfin, 36 jours pour l'arrivée du matériel électoral à Kinshasa et son déploiement dans les 50 000 bureaux de vote à travers le pays. La deuxième phase prendra 43 jours. Elle concerne les élections provinciales et les deuxièmes tours des présidentielles au cas où aucun candidat président de la République n'aura réalisé plus de 50% au premier tour. Norbert Bachengezi a enfin souligné que ce calendrier prévisionnel devra être adapté au calendrier civil à partir de la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État.
Revenons à Goma avec cette bonne nouvelle pour les nouvelles unités engagées à l'époque de la rébellion du RCD au Nord Kivu et au Sud Kivu. Le vice-ministre de la fonction publique a annoncé hier mardi que ces agents de l'État devront être recensés et mécanisés, c'est-à-dire qu'ils devront recevoir un numéro matricule comme tous les autres agents de l'État. Ces nouveaux agents, faut-il le rappeler, ne sont pas encore reconnus par l'État congolais comme faisant partie de la fonction publique. Ils craignent pour la régularisation de leur dossier, mais Désiré Cachez-moi les rassure au micro de Charles Ntirisha.
Les nouvelles unités seront aussi listées pour qu'ils soient dénombrés au regard de leur fonction, de leur grade, et que les chefs de division puissent attester que ces agents-là existent bel et bien. Ces listes seront transmises à Kinshasa pour disposition. À Kinshasa, au moment où je vous parle, les NU de Kinshasa sont en train d'être régularisés. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un traitement discriminatoire. Dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, il y a plus d'agents NU qui travaillent que des agents sous statut. Nous ne pourrions pas comprendre qu'au 30 juin 2006, tous les agents aient été recensés, que les NU soient des oubliés. Je vais m'employer doublement pour que cette question soit véritablement réglée.
Dans le volet sanitaire, notez d'abord cette situation déplorable à l'hôpital général de référence de Walungu. Cet hôpital connaît des sérieuses difficultés en approvisionnement de courant électrique. Selon le médecin directeur de cet hôpital, il leur arrive d'utiliser des lampes torches pendant des interventions chirurgicales. Cet hôpital est le seul hôpital de référence de tout le territoire. Il dessert pas moins de 400 000 habitants dans le secteur. On écoute le docteur Jean Mukenga qui lance un cri d'alarme.
Depuis le mois d'octobre 2005, nous n'avons plus de courant à Walungu et nous avons des difficultés sérieuses pour la prise en charge des malades, notamment en salle d'opération où nous sommes obligés d'utiliser parfois des lampes tempêtes ou des lampes torches. Ce sont des conditions assez difficiles pour travailler. Nous souhaiterions qu'on installe une turbine qui peut servir l'hôpital de Walungu. Ça, c'est un grand hôpital qui dessert une population estimée à 400 000 habitants. Et les activités, il y en a beaucoup. Et ça demande du courant permanent. Les accidents sont déjà arrivés. Il nous est même arrivé de perdre un malade parce qu'il fallait avoir du courant pour doser l'hémoglobine, faire le groupage. Et ça a pris assez de temps et le malade, on l'avait perdu en salle d'opération. Nous avons perdu beaucoup d'appareils. Cela nous met vraiment beaucoup en difficulté.
Propos recueillis par Astrid Mujinga, contacté par Radio Okapi, le directeur de la SNEL qui vient d'arriver à Bukavu, a indiqué qu'il se penchait sur le problème. Notez par ailleurs que la ville d'Uvira, dans le sud de la province du Sud Kivu, est entièrement privée d'électricité depuis 8 jours. Toujours dans le même registre, le gouverneur de province du Maniema ad intérim, M. Boni Yemba Mpoyo, a déclaré hier l'état d'épidémie de rougeole dans 2 zones de santé. Il s'agit de la zone de santé de Lubutu et de la zone de santé de Kindu, particulièrement dans les aires de santé de Mikelenge et Lumbulu-Lumbu. Le gouverneur ad intérim promet un renforcement des vaccinations et appelle à la mobilisation de tous les partenaires de la santé. Monsieur Boni Yemba Mpoyo au micro de Rigobert Yumandwani.
Nous avons été saisis par les médecins inspecteurs provinciaux de la santé qui nous a alerté sur la résurgence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de la ville de Kindu où plus ou moins 100 cas ont été signalés la semaine dernière et dans la zone de santé de Lubutu où environ 80 cas ont été signalés la semaine dernière. Le médecin inspecteur provincial nous a signifié qu'il a prélevé 3 échantillons et que sur les 3 échantillons prélevés qu'il a envoyés au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale, tous les 3 échantillons ont été confirmés positif. Selon l'OMS, 3 cas positifs dans une zone de santé suffisent pour confirmer l'épidémie. Ainsi donc, nous déclarons qu'il y a épidémie de rougeole dans les zones de santé de Lubutu et de Kindu dans la province du Maniema.
Dresser un panorama le plus fidèle possible du paysage radiophonique de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif de l'étude initiée par le groupe de recherche et d'échange technologique GRET en sigle. Cette étude qui a abouti à la réalisation de la cartographie des radios en RDC a fait l'objet d'une conférence de presse organisée hier matin par GRET au centre d'accueil protestant. Pour le coordonnateur des programmes du GRET, jusqu'en décembre 2005, cette mission d'identification a permis de relever plus de 220 radios en République démocratique du Congo. Ben Kabamba au micro de Alain Irung.
Nous avons pensé qu'au vu des enjeux électoraux, il a été important de savoir comment il faut faire parvenir le message à la population. Nous savons qu'en RD Congo, au niveau du référendum, il y a eu un déficit d'informations sur la loi référendaire. C'est puisqu'il n'y a pas eu d'outils pour identifier comment atteindre l'ensemble de la population de la RDC. Nous avons vu que ces radios sont très très importantes dans les communautés. Il suffit de voir vous-même les réactions qui s'associent quand quand on ferme une radio dans telle ville ou bien dans telle cité. Ça suscite toujours beaucoup de réactions et c'est ce qui prouve que réellement ces radios-là ont une importance capitale partout là où elles émettent, puisqu'elles donnent malgré tout la parole aux gens pour s'exprimer, pour dire comment est-ce qu'ils voient le développement de leur cité. Et aujourd'hui, ces radios-là vont jouer un rôle important dans le cadre du processus électoral. Ce sont des radios vraiment qui s'impliquent beaucoup dans les processus électoraux.
C'est donc sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Eddy Markis était à la mise en onde et Noëlla Luzitu à la coordination. Je vous retrouve à 13h de Kinshasa pour le prochain bulletin sur Radio Okapi.